des avancées, il y en a également dans le domaine du diagnostic. On s'est longtemps plaint que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer était posé très tardivement par rapport à l'apparition des premiers symptômes. Aujourd'hui, on peut poser un diagnostic de façon plus précoce. Avec quels outils et dans quel objectif? C'est ce dont va nous parler le docteur Rémy Genton, qui est directeur scientifique de la Fondation Recherche Alzheimer.
Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver ici dans cette belle ville de Lille et de vous voir nombreux. C'est toujours un challenge de prendre la suite de Jean-Charles Lambert parce que c'est tout à fait remarquable. Il a dit l'essentiel, je crois, du sujet en très peu de temps. Et le sujet là que j'ai à présenter, c'est le diagnostic précoce. Donc derrière ce thème, il y a beaucoup de questions effectivement qui se posent. Pourquoi faire un diagnostic? Comment le fait-on? Et quand faut-il le faire essentiellement? Mais voilà, il y a beaucoup, ça soulève beaucoup de questions. Je vais attraper, voilà. Ça fonctionne. Alors, très rapidement, l'historique, je ne vais pas le refaire, mais très très vite, on partait donc, on est en 1907 ou 1906, quand le premier cas a été rapporté par le docteur Alois Alzheimer, et c'était une femme de 58 ans, enfin moins de 60 ans quand elle a été diagnostiquée. Et à l'époque, la boîte crânienne était difficile à explorer, enfin surtout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et la neurologie s'est développée sur ce qu'on appelle la méthode anatomo-clinique, c'est-à-dire qu'on observait les patients le mieux possible avec les outils qu'on avait, c'est-à-dire beaucoup l'interrogatoire, l'examen clinique avec les outils importants que sont un marteau réflexe et une épingle à nourrice, donc des choses très rudimentaires. Et on relevait tous les signes possibles et après, quand le malade décédait, on examinait le cerveau et on essayait de comprendre ce qui s'était passé, où était la lésion et pourquoi elle se reliait à ce qu'on observait, ce qu'on avait observé au moment de la clinique. Et c'est ce que fait le docteur Alzheimer avec sa patiente. Il l'a suivi longtemps, il l'a bien observé et il a recueilli après son décès son cerveau, l'a examiné et a découvert effectivement l'atrophie et les lésions, les deux lésions amyloïdes et tau que vous a décrit le docteur Jean-Charles Lambert. Et on n'a pas beaucoup avancé pendant près d'un siècle. Avec une première étape quand même, où d'abord on s'est aperçu que cette maladie était en fait plus large que celle d'une femme jeune, ça atteignait aussi des sujets plus âgés, et cette maladie qu'on appelait au début démence présénile Alzheimer, on l'a appelée démence Alzheimer, maladie d'Alzheimer, parce que ça atteignait aussi des sujets âgés, et surtout des sujets âgés. Là aussi, ça a été très bien expliqué. Quand on s'est mis à faire une recherche un peu active sur ce sujet, on a développé des critères communs pour se mettre d'accord en disant quand on fait des études, il faut avoir tel et tel critère. Et en effet, on ne pouvait pas faire un diagnostic de certitude disant des patients. On ne faisait qu'un diagnostic de probabilité fondé sur le fait qu'il y avait une atteinte cognitive touchant trois domaines, la mémoire, le langage, la cognition, la reconnaissance des choses, des choses comme ça, et qu'elle était d'installation progressive, qu'il n'y avait pas d'autre explication évidente, et que probablement, c'était une maladie d'Alzheimer. On a fonctionné comme ça. Moi-même, j'ai travaillé un petit peu dans ce contexte-là parce que je suis plutôt jeune, mais les choses ont quand même pas mal évolué. Et la révolution, ça a été celle des biomarqueurs, des marqueurs biologiques de la maladie. Marqueurs biologiques qui, même si effectivement ils ne sont pas une diagnostic de certitude à 100%, qui ont une très bonne spécificité, une très bonne sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a peu de faux négatifs et peu de faux positifs. On diagnostique à peu près correctement la maladie avec une très bonne corrélation avec ce qu'on peut trouver à l'examen post-mortem. Et ces biomarqueurs permettent donc d'affirmer à peu de choses près la maladie du vivant du patient. Et on s'est rétrospectivement aperçu que quand on utilisait les critères passés de probabilité, probablement 30% des patients étaient considérés à tort comme des Alzheimer, alors qu'ils avaient une autre maladie et donc n'étaient pas susceptibles de répondre aux traitements contestés. Donc, première amélioration, ça a été de prendre les bons patients et de tester l'effet sur les patients qui avaient la cible qu'on visait, ce qui est quand même la base d'une bonne recherche. Le deuxième aspect, ça a été qu'on a beaucoup tâtonné au début et on s'est rendu compte que si on s'y prenait trop tard, on ne voyait pas grand-chose. Et les premiers succès, dont Dr Lambert vous a aussi parlé, ils ont été obtenus grâce au fait qu'on prenait les patients un peu plus tôt dans l'histoire de la maladie. Et ce que ce graphe montre, donc tous ces biomarqueurs qui montrent, c'est des marqueurs de l'amyloïde, des marqueurs du tau, de l'atrophie, des marqueurs cliniques de troubles cognitifs et des marqueurs cliniques de dépendance. J'ai gardé le mot de démence parce qu'il est resté quand même assez classique et elle est à prendre dans le sens de démence étymologiquement, c'est perte de l'esprit, hein, mais c'est perte en fait de l'autonomie. C'est quand les patients deviennent dépendants. Et avant le stade où ils sont dépendants, il y a le stade qu'on appelle TCL, trouble cognitif léger, où le patient commence à avoir des troubles de la mémoire, mais son autonomie est à peu près conservée, il se débrouille dans la vie courante, dans de bonnes conditions. Mais ce qui est important à constater, c'est que la maladie, en fait, les biomarqueurs commencent à bouger beaucoup plus tôt que les tout premiers signes cliniques. Il s'écoule probablement 20 ans entre le début biologique de la maladie et le moment où on commence à avoir des signes plus ou moins ténus et le moment où, évidemment, la dépendance va s'instaurer. Donc c'est un processus très long et il y a toute cette période. Et la question sur ce schéma temporel, où faut-il faire le diagnostic, où peut-on le faire, pourquoi et comment. C'est un petit peu donc le cadre où on va essayer de passer ces quelques minutes. Donc aujourd'hui, on dispose quand même de ces marqueurs biologiques qui donnent avec assez de certitude le diagnostic. Donc c'est là encore, c'est toujours la clinique, hein, bien sûr, fondamentale. Des manifestations cognitives progressives avec généralement le trouble de la mémoire et dans certaines formes plus rares, ça commence par des troubles du langage, des troubles neurovisuels ou des signes frontaux, donc des troubles du comportement, mais c'est beaucoup plus rare. Essentiellement, il est essentiel plutôt de faire une IRM, de faire une imagerie cérébrale. Pourquoi ? Parce qu'on peut, comme ça, découvrir des choses qui sont un processus expansif, tumeur, un hématome subdural chronique, des choses un peu inhabituel, une hydrocéphalie à pression normale, qui en fait ne seront pas des Alzheimer et qu'on pourrait être peut-être curable et qui doit être diagnostiquée. Donc il est indispensable d'avoir toujours au départ au moins une imagerie. L'imagerie peut apporter aussi donc, un diagnostic différentiel, si vous voulez éliminer des causes qui seraient autres, et des orientations vers l'Alzheimer avec justement la visualisation de sa trotrophie localisée d'abord à l'hippocampe puis qui s'élargit peu à peu. Donc l'IRM doit être compatible dans ce tableau clinique et ensuite on va rechercher ces arguments biologiques. Alors quels sont-ils ? Eh bien essentiellement on va avoir ces marqueurs qui reflètent et la pathologie de type bêta-amyloïde et la pathologie tau qui vous a été extrêmement bien décrite. Donc comment on y accède à ces marqueurs ? De deux moyens, la ponction en verre qui est un moyen d'accéder au liquide qui baigne le cerveau et qui donc la biologie des choses qu'on retrouve dans ce liquide reflète assez bien ce qui se passe dans le cerveau, avec des modifications de l'amyloïde et des modifications de type de protéines tau qu'on retrouve, et des examens scintigraphiques. L'examen scintigraphique, c'est quoi ? On a des marqueurs qui vont aller se fixer sur l'amyloïde ou sur le tau, qui vont porter un marqueur radioactif, et donc en mettant dans une caméra, on va observer la fixation dans certaines zones, et ça donne une bonne orientation diagnostique. L'examen du LCR, du liquide céphalo-rachidien par ponction lombaire et scintigraphie sont assez bien corrélés, donc ils seraient tout à fait substituables, mais en fait ils donnent des informations qui sont l'une ou l'autre utiles en clinique. Alors en France, que se passe-t-il ? Il y a des recommandations du parcours diagnostique qui a été développé par les hautes autorités de la santé, et tout part, bien sûr, les patients consultent parce qu'ils ont une plainte cognitive. Le médecin généraliste est censé recevoir cette plainte. Il a le droit d'opérer les recommandations à une consultation plus longue qui va lui permettre de faire un petit test de dépistage. Il va prescrire des examens sanguins de routine qui vont chercher des déficits vitaminiques, des maladies type syphilis, même ça existe encore un petit peu, des choses comme ça. Biologie standard, donc chercher une anémie, vraiment, tout ce qu'on peut imaginer. Et il va prescrire cet IRM. Et s'il a des soupçons, l'étape suivante, c'est les centres de la mémoire et avec, grâce au plan Alzheimer, un très bon mariage, un assez bon mariage territorial, il n'est jamais parfait, mais enfin il est quand même très bien développé, qui permet d'aller plus loin, de refaire un petit peu en approfondissant ses examens, l'évaluation du comportement, de proposer les premières orientations de diagnostic et de faire des examens plus approfondis, soit la ponction lombaire, soit l'imagerie par l'imagerie isotopique pour attester du diagnostic biologique avec une valeur de quasi-certitude. Et au au décours de ça, on va orienter la prise en charge. Donc tout ça, c'est très bien. Simplement, ces examens-là, plus spécialisés, on ne les fait pas à tout le monde. L'autorité les recommande de les cantonner, de les réserver aux patients soit jeunes, soit à des formes assez atypiques, là où on a un vrai lieu de diagnostic. Si effectivement vous voyez arriver une personne de 85 ans qui a manifestement cliniquement tous les signes de maladie d'Alzheimer, il n'est pas forcément nécessaire d'aller vous, déjà assez avancé, il n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher un diagnostic dont vous avez une quasi-certitude, dans une forme très très typique. C'est histoire de ne pas à s'acharner, à embêter des gens avec des examens qui sont quand même un tout petit peu complexes et laborieux pour le sujet. Mais le défaut de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ce système est bien en place, mais malgré ça, une personne sur deux à peu près n'est probablement pas diagnostiquée. Et le MMSE, bon, c'est un marqueur un petit peu de sévérité de l'atteinte cognitive, moyen à la première consultation est de 17 sur 30, ce qui reflète déjà un stade assez avancé de la maladie. Donc, le système est bien en place, mais il n'y a pas assez de patients au début de la maladie qui arrivent là. Pourquoi ? Il y a un sous-diagnostic certain, il y a sûrement une partie de aquabonisme, si on veut formuler quelque chose comme ça. Crainte aussi peut-être du diagnostic où on ne veut pas trop savoir, où les familles se disent oh, c'est normal. Enfin, tous ces facteurs peuvent jouer. Lourdeur aussi de la procédure, parce que les rendez-vous ne sont pas toujours rapides à obtenir. Enfin, tout converge vers le fait qu'on arrive un peu trop tard, à mon avis, dans ce processus. Alors peut-être faut-il se poser la question aussi, est-il indispensable de faire le diagnostic ? La réponse, bien sûr, pour moi, est quand même positive. Elle est liée au fait que, d'abord, en effet, il faut, même si on est dans le contexte d'une maladie neurodégénérative, on veut être sûr qu'il s'agit bien d'une maladie d'Alzheimer. Parce que derrière ce nom, il y a les maladies associées, les maladies qui ressemblent à l'Alzheimer, mais qui n'en sont pas, et on en voit apparaître de plus en plus. À mesure qu'on a justement ces marqueurs plus spécifiques, on arrive à rechercher d'autres maladies qui ressemblent, ou ressemblent plus ou moins, ont des caractéristiques, mais pas toujours, peuvent se superposer. La maladie à cours de Lévy, la démence frontotemporale, la dégénération cortico-basale, le LATE. Enfin, c'est des entités, quelques-unes sont assez nouvelles, et elles sont liées à des protéines qui sont différentes. En fait, ce n'est pas la protéine bêta-amyloïde qui est en cause, donc tout ce qui va cibler la protéine bêta-amyloïde ne servira pas. Inutile d'exposer les patients. Donc c'est important de faire un diagnostic différentiel. Et si vous avez le bon diagnostic, vous allez pouvoir réfléchir à thérapeutique. Et il y a des médicaments qui sont déjà utilisés, des médicaments symptomatiques qui vont améliorer la mémoire, qui vont aider quelque temps au moins. C'est les anticholinestérasiques, des patchs, etc., qui vont pouvoir pallier un petit peu cette détérioration progressive et qui rendent service, même si aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont plus remboursés en France. Vous allez donc pouvoir proposer ces traitements. Vous allez pouvoir aussi éventuellement participer ou recevoir les nouveaux traitements dont on attend l'arrivée imminente en Europe. Et ça fait un petit peu quelques 6 mois ou plus qu'on dit ça. Je vais revenir un petit peu. Ils ont été approuvés aux États-Unis, sur le marché aux États-Unis, et l'Europe est encore un petit peu pour des raisons complexes, réglementaires, politiques, etc., encore un peu dans les starting blocks, mais ça n'a pas encore démarré. On pourra avoir une action préventive, là aussi c'est un sujet qui a été déjà un peu abordé, et mettre en place tous les dispositifs d'aide en fonction des besoins des patients et de la famille. Participer au programme de recherche, c'est important, et ce graphe, vous n'arrivez pas à lire, mais ce n'est pas le but, vous montre simplement que chaque point est un essai thérapeutique sur une molécule, et en gros, il y a 150 molécules en développement actuellement dans la maladie d'Alzheimer, donc plus de 150, 180 probablement essais cliniques, pas tous en France bien sûr, mais qui recrutent pour des essais. Et c'est extrêmement important de pouvoir trouver les patients, les volontaires, pour participer à ces essais et faire avancer nos connaissances et tester des molécules. Certaines sont des molécules déjà connues, utilisées pour d'autres maladies, et dont on pense qu'elles peuvent avoir un bénéfice, donc elles sont relativement sans risque, et ça vaut le coup de tenter ces essais. Enfin, bien sûr, il y a la notion individuelle, hein, d'anticiper un peu pour les familles, pour les malades, le devenir de tout ça, et de s'organiser autour de cette maladie qui, malheureusement, ne fera que progresser dans l'état actuel de nos connaissances. Alors, la question qu'on se pose donc, faut-il diagnostiquer plus tôt pour traiter plus tôt? Parce que si c'est pour faire un diagnostic et rien, ce n'est pas la peine. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et faut-il... Alors, la première réponse, elle est oui, parce que, évidemment, comme vous l'avez vu, on n'est pas très content d'avoir une moyenne de patients qui viennent en centre de mémoire à un MSE 17. C'est trop tard. On préfère les voir plus tôt. Pourquoi on préfère les voir plus tôt? Parce que quand l'atrophie est installée, il vaut mieux, si on a des traitements qui modifient le cours de la maladie, des traitements qui vont la ralentir, on préférerait arrêter le patient à un stade où il est encore pas mal, plutôt qu'à un stade où il est très avancé et dépendant. Ça va de soi. Deuxième argument, vous avez entendu parler de la cascade d'amyloïde dans la présentation précédente. Donc il y a le taux, l'amyloïde, probablement tout part de l'amyloïde, on en est un petit peu convaincu aujourd'hui. On ne sait pas très bien pourquoi, en dehors des facteurs génétiques, cet amyloïde s'accumule, mais les facteurs génétiques sont importants. Le tau, l'accumulation de tau, c'est plutôt lié au vieillissement, c'est plutôt dans l'hippocampe, l'amyloïde, c'est plutôt dans le cortex, et quand les deux se rencontrent parce qu'ils avancent doucement leur chemin chacun, là, la maladie s'installe, explose, et puis voilà, elle se déclenche, elle s'exprime. Mais avec le cours de la maladie, on sait que les choses se compliquent. La microglie, l'inflammation... Les autres facteurs de risque, la barrière hémato-cérébrale, la barrière qui sépare le sang du cerveau, devient perméable, fait rentrer des mauvaises molécules. Donc il y a une espèce de cascade d'événements qui s'enchaînent un peu comme un incendie qui se propage et fait brûler le bois, puis la grange, puis le réservoir, puis etc., le tracteur. Et donc tout ça finit par faire quelque chose de très important. Et plus on va intervenir tard, comme un pompier, le combat sera difficile. Et c'est pour ça aussi qu'au début, les essais cliniques ont raté, parce qu'on a testé des patients trop tard, avec des molécules qui étaient peut-être bonnes. Et quand on est passé à des stades plus précoces, on a eu les premiers succès. Alors, aujourd'hui, donc, on voudrait arriver à ce stade qui est un peu plus précoce que le schéma que je vous montrais tout à l'heure. On était vraiment au stade à cheval sur le trouble cognitif léger et la démence légère à modérée, il voudrait passer plutôt à légère, démence légère, voire vraiment trouble cognitif léger. Vous voyez que j'ai déplacé l'ellipse vers la gauche. Alors, effectivement, c'est important parce que on a des nouveaux traitements, en tout cas aux États-Unis. C'était pas plus tard qu'avant-hier que le donanemab est passé devant la commission d'experts indépendants qui examine les dossiers pour la FDA et qui a donné un avis favorable à 11 voix contre 0 donc pour l'approbation du donanemab aux États-Unis. Donc effectivement, en Europe, on est plus circonspect parce que l'effet thérapeutique est indéniable, mais peut-être n'a pas l'intensité et l'ampleur qu'on voulait parce qu'il y a des événements indésirables. Mais tout ça peut être très encadré et ces produits méritent, à mon avis, d'arriver sur le marché. Donc il y a trois produits qui ont montré une efficacité sur le dépôt d'amyloïde, c'est la partie gauche. Enfin, ça fait longtemps qu'on sait que ça marche sur le dépôt d'amyloïde, mais la difficulté qu'on avait, c'est montrer l'efficacité clinique. Ce qui a aidé, c'est de prendre les patients plus légers, et si l'efficacité est plus importante chez eux, donc stade précoce. Et ça a été montré donc, pour deux produits, lecanemab et donanemab, qui tous les deux sont... Enfin, lecanemab a été approuvé l'été dernier, donc il est sur le marché, voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Et le donanemab, il a été approuvé il y a deux jours, donc la FDA doit maintenant entériner la décision et puis lancer le produit, ce qui devrait arriver très, très prochainement. En Europe, j'ose plus donner de date parce que ça fait 6 mois, 1 an qu'on dit que ça va arriver, mais j'ose plus le dire aujourd'hui, mais ça va arriver, je pense quand même. Mais je ne peux pas donner de date. Alors, la troisième raison, donc deux raisons, c'est de prendre tôt avant que les lésions soient trop sévères, prendre tôt avant que le mécanisme devienne trop compliqué, prendre tôt pour être dans le créneau de l'indication, parce que j'ai oublié de le dire, mais ces produits ont été testés chez des malades avec un MS de 22 et au-delà, alors que vous voyez, la moyenne des patients qu'on voit en consultation, ils sont à 17, donc trop bas, pour pouvoir bénéficier de ces traitements. Et donc, il y a un ultime argument qui est un petit peu une annexe du précédent, qui est de diagnostic, de traiter assez tôt grâce aux molécules. C'est justement une modélisation qui a été faite par un des laboratoires, celui de donanemab, qui a classifié les malades en fonction de leur degré d'avancement dans la maladie, évalué justement par le niveau de pathologie tau, sachant que dans l'idée, la pathologie tau se développe, explose quand la maladie évolue. Et donc c'est un marqueur de l'avancée de la maladie. Et donc vous avez en noir la courbe placebo, en vert en haut la courbe des patients traités, et vous avez vu que le déclin, la courbe qui débaisse, c'est le déclin cognitif, le déclin moins important chez les patients traités par traitement actif par rapport au placebo, c'est ce qu'on espérait. Et vous avez aussi les trois flèches vertes verticales qui indiquent la réponse des groupes des patients les moins avancés dans la maladie, à gauche, et plus avancés dans la maladie en allant vers la droite. Et vous voyez qu'à ce moment-là, les courbes de chacune se détachent plus ou moins de façon importante. Et si vous avez un marqueur du seuil d'autonomie qu'on fixe sur cette échelle, que je ne vais pas détailler, cette échelle CDRSB à 11, eh bien, quand vous êtes au-dessus de ce seuil, vous restez autonome. Quand vous êtes en dessous, vous n'êtes moins autonome, plus autonome. Vous perdez l'autonomie, vous êtes dépendant. Et vous voyez que pour la courbe la plus haute, celle des patients les moins avancés dans la maladie, on a un meilleur effet. Et dans cette modélisation, c'est un modèle, hein, ce n'est pas des résultats observés, mais c'est évidemment reconstruit à partir des données dont on dispose, en les extrapolant dans le temps. Et bien, on arrive à un décalage de 37 mois, ce qui n'est quand même pas négligeable pour des patients pris encore plus tôt, les plus tôt des patients qui sont pris tôt pour cette maladie, si vous voulez. Donc, un argument de plus pour dire vraiment, il faut traiter tôt, au moins dans le créneau de l'indication pour laquelle le produit a été testé, mais si possible, le plus tôt de ces plus tôt. Et alors, je vais pousser encore le bouchon plus loin. Faut-il aller encore plus tôt, c'est-à-dire dans cette phase sans symptômes? Alors, sans symptômes, vous dire, mais comment on les détecte? Alors, c'est une des questions. Et là, on rentre un peu dans la prospective, mais je crois que c'est nécessaire, parce qu'il faut qu'effectivement avance en parallèle la recherche, les moyens diagnostiques et puis les réponses. Et la direction dans laquelle il faut aller, à mon avis, est celle-là. Alors, traiter avant les symptômes, quand il y a des marqueurs, bien sûr, hein, ça a été testé. Pour l'instant, il y a une énorme effort de 4 ans de suivi, 4 ans et demi de suivi chez 1000 sujets. Malheureusement, ils n'ont pas pris la bonne molécule. C'est un de ces anticorps, donc pour l'immunisation passive dont vous a parlé Jean-Charles Lambert. Hein, donc c'était le seul amezumab. Mais bon, tous ces produits n'ont pas exactement le même mécanisme d'action. Le principe est le même, c'est attaquer l'amyloïde. Mais certains attaquent l'amyloïde avant qu'il s'agrège, d'autres quand il est un petit peu agrégé. Donc quand il est très agrégé, ils n'attaquent pas le même bout de la chaîne de peptides. Donc voilà, la chaîne d'amyloïde. Donc il y a des petites différences et manque de bol, celui-là ne fonctionnait pas dans les études normales et c'est lui qui avait été testé dans cette longue long terme. Gros investissement et puis un flop relatif, ça n'a pas fonctionné. Donc pour l'instant, il y a encore des études en cours, notamment DIAN-TU, c'est une étude qui porte sur les patients purement génétiques, parce que justement là, on a une idée assez précise du moment où ils vont développer leur maladie, parce qu'en général, ça réplique ce qui a été le cas du parent porteur de l'anomalie génétique. Donc c'est un beau modèle, si on peut dire, pour montrer aussi le produit efficace ou pas. C'est en cours, mais on n'a pas encore les résultats. Et puis il y a des études en cours, un peu comme l'étude A4, là, qui teste des patients qui ne sont pas encore symptomatiques d'une forme normale, d'une forme sporadique de la maladie, avec le donanemab, avec le lecanemab. Mais les résultats, c'est 2027-2029, on n'en est pas encore là. On a bon espoir que ça marche. Ce serait assez logique que ça marche, parce que si effectivement on coupe en amont du dépôt la chaîne amyloïde, on a des chances quand même peut-être d'arrêter la maladie. En plus, il y a une grosse discussion autour du risque-bénéfice. Alors évidemment, on va dire le risque est moindre pour les... Enfin, le bénéfice, s'il n'y a pas de plaque, on aura moins de bénéfice, c'est pas vrai. On va arrêter plus en amont, donc on aura peut-être un bon bénéfice clinique. Et le risque de complications, saignements, œdèmes, etc., il est lié à l'intensité des plaques existantes, parce qu'il est lié vraiment aux mécanismes d'action. C'est le fait de bouffer les plaques qui va exposer au risque de saignement, parce que les plaques sont quelquefois près des vaisseaux, en gros, si je résume. Donc, agir tôt, quand il y a encore peu de dépôts, c'est peut-être une très bonne idée. Mais honnêtement, on n'a pas encore aujourd'hui une réponse objective, même si on y croit profondément. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire pas mal de choses. Et vous voyez, vous reconnaissez ce schéma, maintenant vous connaissez très bien, hein, les facteurs de risque modifiables avec tous les âges. Ça commence par l'éducation, ça commence par le milieu de vie où il faut faire attention à son hypertension artérielle, à ne pas se défausser, s'installer une surdité, des choses comme ça. Et puis le grand âge, les un peu plus avancé en âge, où il faut effectivement bien surveiller sa tension, son diabète, tous ces facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, la maladie de Alzheimer n'est pas une maladie vasculaire, tant qu'on le sache. La maladie d'Alzheimer est une maladie particulière avec sa cascade amyloïde, etc. Mais si vous faites une prévention vasculaire, vous allez éviter d'ajouter deux pathologies l'une à l'autre. Les désordres que crée la pathologie vasculaire qui amène au cerveau ce dont il a besoin du sucre et de l'oxygène, si vous avez des vaisseaux abîmés, vous allez avoir des neurones qui vont souffrir. Ces neurones vont être soumis à deux souffrances, l'attaque de la maladie d'Alzheimer et le défaut d'oxygénation et de nutrition. Donc c'est deux pathologies qui vont pouvoir agir en synergie pour attaquer et détruire votre précieux cerveau. Donc effectivement, évitez d'ajouter du mal au mal, et la prévention vasculaire est très importante. Et en effet, on a observé d'ores et déjà que cette action prévention vasculaire qui est donnée depuis des années a un bénéfice inespéré sur l'incidence de la maladie, avec moins d'effets à âge égal qu'on s'attendait à en voir compte tenu du vieillissement de la population. Donc la nouvelle frontière, et là c'est vraiment de la prospective parce qu'on n'en est pas encore là, c'est effectivement évaluer les risques individuels et prévenir. Les facteurs de risque modifiables donc, sont 40% dans le risque, et Jean-Charles Lambert y a fait allusion, on arrive, ils ont développé, parce que Lille est vraiment un grand centre mondial de génétique, hein, il ne l'a pas souligné, mais c'est quelqu'un de très modeste, mais vraiment c'est vraiment un des pôles, sinon le grand pôle, avec cette coordination européenne. Et ils ont développé un score de risque génétique, alors qu'il n'est pas encore complètement achevé, hein, qui va encore se perfectionner avec les années. Il faut vraiment que les deux choses avancent en parallèle, meilleure connaissance des risques et réponse à apporter en face. Bénéfices des actions préventives, donc j'en ai parlé. Une étude intéressante qui est un travail tout bordelais qui est sorti le mois dernier. En gros, je ne vais pas le détailler, mais qui montre une chose, c'est que les patients qui ont ce fameux risque génétique lié à l'APOE4, hein, ce risque qui est le plus important des risques génétiques, mais pas, c'est pas les facteurs déterminants, c'est les facteurs de risque simplement. Le plus important de ces risques, eh bien, s'ils ont une prévention vasculaire, ils en bénéficient aussi. Dire, c'est pas parce que vous avez le facteur de risque qu'il faut absolument négliger les autres en se disant à quoi bon, puisque de toute façon j'ai ce facteur de risque. Non, au contraire, c'est actif aussi. Ceux qui ont les risques génétiques bénéficient aussi d'une bonne prévention.
Nous sommes un petit peu en retard. Si vous voulez garder 5 minutes pour les questions.
Absolument, je conclue. Alors, les nouveaux outils, ils arrivent. Donc, les marqueurs sanguins, on a un marqueur du taux, le PTO-217, mais ce n'est pas la peine de le retenir, mais enfin, donc il y a un marqueur sanguin qui est assez bien corrélé au dépôt amyloïde et au taux, donc c'est vraiment un marqueur qui se développe et on pourra faire le diagnostic avec une prise de sang. C'est prêt, ce n'est pas encore utilisé en clinique, mais ça va arriver. Des outils digitaux qui sont très performants pour dépister les tout premiers signes cliniques et qui sont facilement utilisables parce qu'il n'y a pas besoin de consultation en face à face. Ça peut déjà réaliser un bon screening. Et puis, donc, aboutir à une médecine préventive, participative, prédictive, personnalisée, c'est vraiment la direction dans laquelle on va, avec certains chercheurs, dont certains sont dans notre comité scientifique, le premier et le dernier auteur déjà au moins, et d'autres sans doute, qui prônent la création de véritables cliniques du risque et de la prévention. Ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc, on a validé la piste amyloïde, on sait qu'il faut traiter très tôt, et il faut envisager, bien sûr, continuer la recherche de nouveaux médicaments, mais aussi agir sur cette connaissance du risque et cette préparation d'actions préventives et thérapeutiques. C'est tout. Merci.
Merci beaucoup, docteur Rémy Genton. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Attendez, on va vous donner un micro.
Je tiens à vous remercier parce que c'était très clair et on a appris plein de choses. Moi, j'avais la question, à partir du moment où le diagnostic est fait avec les marqueurs, tout ce que vous avez dit, le LCR, tout ça, est-ce qu'on sait à peu près l'espérance de vie du patient atteint d'Alzheimer? Une petite idée?
Non, c'est très difficile à dire, d'abord parce que, comme vous l'avez vu, les patients peuvent être vus à des stades différents de la maladie. Hein, entre quelqu'un qui est pris au stade de trouble cognitif léger ou quelqu'un qui est déjà dans un stade de démence, de dépendance, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est vraiment individuel, c'est très difficile à dire de toute façon. Ça fera partie effectivement de... Enfin, ce serait intéressant d'arriver à un facteur prédictif.
Il n'y a pas de statistiques qui sont faites là pour le moment?
Non, enfin, si vous voulez, en gros, effectivement, la phase de maladie avérée, ça peut être de 10 à 15 ans, mais dans cette fourchette-là, c'est très individuel.
15 ans, c'est ça, vous disiez?
Pardon?
10 à 15 ans.
Oui, enfin...
Une fourchette.
Oui, une fourchette large.
Okay.
Mais
merci.
Tout dépend effectivement du stade où la maladie est diagnostiquée,
d'accord,
évidemment. Et
d'accord,
puis des facteurs de risque autres, parce que quelqu'un peut aussi mourir d'un cancer pendant son maladie d'Alzheimer. Tout est possible.
Ok, merci.
D'autres questions? Oui. Vers le fond de la salle. Voilà, parlez bien dans le micro, s'il vous plaît.
Oui, je voulais savoir, pour bien prévenir la maladie, quels sont les signes caractéristiques qui doivent amener à consulter?
Alors, classiquement, et ça reste quand même vrai, ce sont les troubles de la mémoire. Hein. Alors, cela dit, il faut immédiatement préciser que ce n'est pas parce qu'on cherche ses clés de voiture et ses lunettes qu'on a l'Alzheimer. Donc, il faut quand même garder raison et ne pas s'affoler parce que... Je sais de quoi je parle, en vieillissant, on a des petits soucis, on peut même oublier les rendez-vous. Quelque chose qui a été montré dans une cohorte de la Salpêtrière, c'est de se dire que finalement le plus important, c'est si l'entourage se plaint. Quand le patient se plaint, c'est pas trop un souci, parce qu'il a ce qu'on appelle, il prend conscience de ses troubles. Et quand on prend conscience de ses troubles, ça veut dire qu'on est encore bien lucide, quoi. C'est plus inquiétant quand c'est l'entourage qui s'en plaint en se disant vraiment s'il y a quelque chose. Donc c'est un petit peu ça le signe d'alarme. C'est très banal, ça va malheureusement, c'est inéluctable qu'on ait une mémoire moins efficace à 65 ou 70 ans ou un peu plus qu'à 30 ans.
Autre question? Au deuxième rang, troisième rang, s'il vous plaît.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'ai une question à vous poser. Est-ce que l'on peut attribuer à la maladie d'Alzheimer une perte d'odorat, de goût? Est-ce qu'on peut penser qu'il peut y avoir un lien?
Ah, ben, je n'ai pas la réponse, malheureusement. J'ai une réponse pour la maladie de Parkinson. C'est très clair. Pour la maladie de Parkinson, on sait que l'anosmie, la perte de l'odorat, est souvent un signe précurseur. Ce n'est pas connu pour l'Alzheimer, même si peut-être, enfin, il est probable que là aussi, il y a des neurones qui ne sont pas loin du cerveau, qui sont même au prolongement du cerveau, très proches même, et qu'il est possible que, quand la maladie progresse, il soit atteint. Mais on n'a pas encore évalué ça comme étant un signe pronostique, alors que pour le Parkinson, ça reste vrai.
D'accord, merci beaucoup.
Autre question? Juste pour terminer, est-ce que vous savez s'il existe actuellement des discussions pour élargir l'indication des tests sanguins qui sont réservés, comme vous nous l'avez dit, à des sujets jeunes et qui ont une maladie asymptomatique? Est-ce que, compte tenu des effets... des bénéfices intéressants qu'on peut en attendre, est-ce que déjà à un niveau, je sais pas, des sociétés savantes ou des autorités de santé, est-ce qu'on réfléchit à élargir l'accès à ces tests?
Alors, aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, les tests sanguins ne sont pas encore homologués. Hein. Ils sont sur le point de l'être, donc c'est tout à fait une bonne question néanmoins.
Donc c'est trop tôt.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la communauté française se préoccupe, se réfléchit beaucoup à changer un peu le système parce que On peut s'attendre à ce que les médicaments dont je vous ai parlé, ces fameux anticorps monoclonaux, les MAB, hein, tout ce qui est aducanumab, lecanemab, anticorps monoclonaux, monoclonal antibodies, arrivent sur le marché. Et là, ça va créer un appel d'air, parce que forcément, une grande partie des gens, même si ce n'est pas des médicaments parfaits, vont se dire bah, « je veux quand même tenter ma chance ». Et donc, il y a une reconception qui doit se faire, comment les prendre en charge ces patients. En plus, il faut donc des patients qui ont des critères assez stricts, hein, doivent être assez tôt dans la maladie. Il faudra assurer une surveillance importante, c'est des perfusions, donc ça prend du temps, il faut que les patients soient là, qu'on leur pose leur perfusion, qu'on les surveille, parce qu'il y a des petites réactions indésirables, ça, ils sont bénignes. Mais après, il y a une surveillance IRM à prévoir aussi. Donc, ça nécessite beaucoup de moyens autour de cette mise en place de ces médicaments et de ces traitements. Donc, tout va être mis en cause et il faudra effectivement une preuve biologique. Ça nécessaire, et c'est de bon sens, de prouver qu'il y a une pathologie amyloïde avant d'aller traiter, donner un médicament anti-amyloïde. S'il n'y en a pas, c'est vraiment pas la peine. Donc, effectivement, les marqueurs seront nécessaires. Donc, les marqueurs vont forcément être requis et il faudra prévoir aussi la moyen de faire des ponctions lombaires de façon un peu plus facile, en attendant l'arrivée, bien sûr, des prélèvements sanguins qui vont arriver. Donc, tout ça va beaucoup bouger.
Alors, une toute dernière question, parce qu'on n'est pas très en avance. Donc, une question rapide, une réponse rapide, s'il vous plaît.
Excusez-moi, je vais essayer de faire vite. Alors, si j'ai bien compris, je reformule. Hein, si la fin de votre discours, vous entraînez, en tout cas, le courant actuel de la recherche ou du diagnostic, c'est de le faire précoce. Hein. Donc, vous cherchez, j'imagine, des personnes susceptibles d'avoir ces marqueurs pour pouvoir améliorer ce diagnostic et améliorer le soin et la prise en charge derrière. Si j'ai bien suivi.
Oui, c'est exact jusque-là.
Okay. Et du coup, alors moi je suis concernée au premier chef, même si je n'ai pas tellement envie de le savoir. Est-ce que vous allez lancer, enfin quand je dis vous, les pouvoirs publics lanceraient une campagne de dépistage, en fait, pour les personnes susceptibles de porter ce marqueur génétique, puisque si j'ai bien compris, il y a 40% de génétique dedans, si j'ai tout bien suivi. Et si oui, est-ce qu'il faut le faire? Comme je vous dis, je n'ai pas une folle envie de savoir, mais peut-être pour faire progresser la science et les suivants. Voilà, désolé.
L'orateur précédent a très bien présenté les choses en disant aujourd'hui, il a bien dit que ce n'était pas nécessaire. Non, par contre, l'autre réponse à votre question, c'est de dire que oui, il est important de faire des cohortes, c'est-à-dire de faire du suivi de patients sains, à risque, éventuellement à risque ou pas risque d'ailleurs, et de suivre. Parce que plus on connaîtra les déclencheurs de la maladie, les signes précoces, les facteurs de risque, parce que les gens qui développent, ils avaient telle et telle chose au départ, c'est comme ça qu'on avance aussi. Et enfin, essentiellement comme ça qu'on avance. Donc, effectivement, il faut recruter. Le recrutement se fait beaucoup à travers les familles de malades, parce qu'ils sont concernés, ils sont présents dans les centres, donc on peut leur dire, au fait, il y a des études qui vont se mettre en place chez nous, des cohortes qui se mettent en place chez nous. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Les campagnes de prévention, non, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas en face, si vous voulez, la chose à proposer, que des choses assez standards qui sont la prévention cardiovasculaire. Je m'arrête parce que...
Merci beaucoup, docteur Rémy Genton, pour ces précisions. Voilà pour cet éclairage très intéressant sur le diagnostic précoce.